On va quitter l'adolescence, revenir un peu à votre socle, chrétienne ou mère de famille, les deux ?
Ah, les deux.
Les deux, voilà. Pour vous, donc, ça signifie un travail sur soi afin de mieux se connaître, donc un savoir-être et une adhésion aussi à un modèle social, j'ai noté.
C'est la doctrine sociale de l'Église qui me parle, en ce sens où je me méfie de l'argent. Parce que je me suis rendu compte que si on commence à considérer l'argent en premier dans le fonctionnement de la société, à mon avis, ça pervertit tout. Parce que tout ce qui n'est pas monnayable, à ce moment-là, perd de la valeur. Ce que je sais faire n'a pas d'importance si ça n'est pas monnayable. Les relations que j'entretiens avec mon entourage n'ont pas de valeur si ça n'est pas monnayable. Et ça signifie qu'en fait, il vaut mieux que je sorte de ma maison tout de suite, que j'aille chercher le job le mieux payé possible pour aller faire ce qui me plaît et que je laisse tout le reste. Or, pour moi, ce qui est fondamental, c'est l'être et la qualité des relations que j'entretiens avec mon entourage. Donc c'est pour ça que j'appelle ça choisir entre l'argent idole et l'argent serviteur. Parce que l'argent peut être un très bon serviteur. On peut en faire bon usage. C'est pas un problème. Mais à condition de vérifier souvent que ma relation à l'argent n'est pas première. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça n'est pas en fonction du niveau de vie qu'on sera plus ou moins sujet à faire de l'argent une idole. C'est vraiment, si j'essaie sans arrêt de comparer ce que j'ai par rapport à ce qu'ont les autres, je fais de l'argent une idole. Si mon appartement est plus petit, mon jardin est plus petit, mes fringues sont moins chères, sont moins belles. En l'occurrence, ça n'est même pas la valeur des choses elles-mêmes, c'est l'esprit de comparaison.
Oui, on revient finalement à ça, soit le tout extérieur, soit l'intériorité. Enfin, et d'ailleurs, pour vous, l'intériorité est un moyen de régler ce problème avec l'argent finalement.
Oui, parce que c'est la qualité de vie qui permet en fait, tout simplement de se rendre compte qu'on est heureux. Et enfin, je peux très bien être heureuse juste en épluchant des carottes. Hein. Enfin, Non, pas parce que j'aimerais particulièrement éplucher les carottes, c'est pas le truc qui va me passionner, mais c'est la deuxième fois que je prends l'exemple des carottes. Je sais très exactement pourquoi, c'est parce que je suis née dans la presqu'île du Cotentin, et il y a une zone maraîchère où on fait pousser des légumes d'excellente qualité dans un mélange de sable et de terre. Et les carottes de Créance sont connues partout, puisque quand je suis arrivée à Lyon, j'ai découvert que les carottes de Créance étaient en vente dans le supermarché d'à côté. Et savoir, quand vous les sortez de ce mélange de terre et de sable, ces carottes, elles ont une odeur extraordinaire. Et pouvoir retrouver ce mélange de sable et de terre en les épluchant, je me suis dit, mais c'est fabuleux. J'étais à nouveau connectée avec ma région natale qui est à 800 km. Et c'est trois fois rien, mais est-ce que oui ou non je vais prendre le temps? Je sais pas, moi, quand vous coupez une courgette, vous avez déjà regardé, quand vous la coupez en rondelles, le dessin extraordinaire vert qui est à l'intérieur. C'est d'une beauté à couper le souffle. Prendre le temps, je sais pas, de regarder les hérissons qui marchent dans le jardin, les écureuils, les oiseaux, un caillou que vous ramassez sur la plage. Mais ces choses-là n'ont absolument aucune valeur monnayable. Mais si vous êtes uniquement branché sur votre téléphone, vous ne le verrez pas.
Alors, on a déjà un petit peu parlé du corps de la femme, mais je vais quand même en reparler un petit peu pour clore ce livre. Alors, le corps de la femme est un espace habitable. Dans la Bible, la femme ne serait pas modelée, mais construite, ce qui est plus puissant. Finalement, c'est comme si les femmes et les hommes étaient passés à côté d'un trésor ou d'un élément essentiel de la nature profonde des femmes, et que vous l'avez découvert comme un chercheur. Comme une chercheuse, de vérité.
J'en suis absolument convaincue. Non pas que je l'ai trouvé toute seule, mais disons qu'il y a différentes personnes qui permettent de le découvrir, de le vivre, et en condition qu'on veuille bien recevoir ce sur quoi elles ont planché avant nous. Et en l'occurrence, cette théologienne uruguayenne, à mon avis, a fait un travail remarquable d'interprétation des récits de la Genèse, qui permet d'entrer dans une compréhension beaucoup plus fine et beaucoup plus équilibrée de l'anthropologie biblique. Et moi, ça me fait plaisir, parce que je trouve que l'anthropologie biblique est très saine, très réaliste, et pas du tout réductrice. On peut en faire ce qu'on veut, mais si on l'apprend au plus près du texte, enfin, moi je trouve ça vraiment merveilleux de voir ce trésor qu'on a entre les mains, quoi. Et j'ai juste envie de m'en servir et de le faire connaître.
Voilà, donc on a évoqué ce livre qui est paru donc en 2017, début 2017, Madame fait de la résistance. Et on va parler maintenant peut-être de votre premier livre, plus intimiste. On a l'impression de rentrer un peu chez vous dans votre vie de tous les jours. Et alors, le titre est très beau, ainsi que le dessin du livre. Donc, un hurluberlu dégingandé et une demi-portion. Alors, pour qu'on comprenne bien, vous parlez beaucoup de votre relation avec donc, votre mari, Jean-Baptiste. Quel est son handicap ?
Jean-Baptiste est infirme moteur cérébral, c'est-à-dire qu'il a des mouvements parasites qui affectent sa démarche, les gestes des mains et des bras, et sa diction. Accessoirement, il y a des douleurs en tout genre, beaucoup de fatigue. Son cerveau est non seulement tout à fait intact, mais particulièrement brillant. Et ça crée un personnage un petit peu particulier, oui.
Alors, dans le livre, donc, vous évoquez pas mal de choses qui vous énervent, qui vous mettent hors de vous, on va dire. On imagine. J'en ai relevé trois. Nous sommes tous handicapés. Ne pose pas de questions au monsieur, pour les enfants. Mon mari est mon quatrième enfant. Alors, c'est trois phrases que vous ne supportez pas. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez l'expliquer ?
Alors, nous sommes tous handicapés. Ça a l'air gentil. Et c'est souvent dit avec beaucoup de gentillesse. Le problème, c'est que chaque type de handicap a une réalité qui lui est propre. une réalité totalement objective qui entrave dans un domaine, quel qu'il soit, la vie de la personne. Parfois c'est permanent, parfois c'est suivant les situations, et il faut objectivement en tenir compte. Le fait d'avoir des fragilités, des faiblesses en tout genre, alors qu'a priori on n'a aucun type de handicap, c'est une réalité différente. Ça peut être une fatigue, une faiblesse, ok. Mais ça n'a rien à voir avec cette charge très particulière que l'handicap. Ça suppose que vous devez composer dans votre vie avec quelque chose d'objectif qui vous est tombé dessus. Ça n'est pas une maladie, parce qu'en général vous êtes en parfaite santé, mais ça existe. Et le fait de dire nous sommes tous handicapés, non, parce que c'est mettre tout le monde sur le même niveau. Et d'après notre expérience, ça n'est absolument pas possible. C'est pas vivable, en tout cas.
En fait, vous avez évoqué un article que vous aviez lu qui expliquait comment une mère de famille va expliquer à son enfant comment se comporter avec quelqu'un d'handicapé. Et donc, c'est un article qui vous a énervé.
J'aime beaucoup le magazine en question, mais quand j'ai lu cet article, j'ai vraiment eu juste envie de tout déchirer, de tout envoyer les bouts à travers la pièce. Parce que c'était bourré de clichés de condescendance. Et notamment sur, oui, les personnes handicapées sentent beaucoup plus de choses que nous. Les clichés étaient tellement énormes que c'était vraiment, pour le coup, juste insupportable. Après coup, j'ai eu la chance de rencontrer un journaliste qui collabore très régulièrement à ce journal et qui avait compris immédiatement de quoi il était question. Il savait que c'était le sien. Enfin, il avait très bien compris de quoi il retournait. Ça n'était pas une critique envers le magazine, loin de là, mais simplement sur le contenu de cet article précis. Et c'est malheureusement quelque chose que je retrouve souvent, aujourd'hui encore, autour de moi, dans la société, toujours sous couvert de gentillesse. C'est juste une forme de misérabilisme ou de condescendance qui tombe complètement à côté de la plaque et qui peut faire bondir toute personne saine d'esprit.
Et donc, la troisième chose, c'était par rapport au fait qu'on infantilise Jean-Baptiste, votre mari.
Une des choses qui, d'après ce que j'ai constaté, irrite le plus toute personne handicapée, quel que soit son handicap, c'est l'infantilisation. C'est parler à sa place. Enfin, il m'arrive par exemple très très souvent, quand je fais une course n'importe laquelle avec Jean-Baptiste, face à des commerçants par exemple que je ne connais pas, ou même entrer dans une conversation avec Jean-Baptiste, avec d'autres personnes alors que je suis à côté de mon mari, si c'est lui qui pose la question, curieusement, c'est à moi qu'on répond. Comme s'il fallait que la personne valide vérifie la validité des propos de mon mari. Lui, il est peut-être invalide, mais ses propos le sont valides. Et tout ce que je peux faire, c'est juste ostensiblement me tourner vers lui pour montrer que c'est à lui. Si c'est lui qui a posé la question, c'est à lui que l'on répond. Dans ce cas-là, je me fais transparente. J'attends. Quelquefois, ça marche.
Votre mari et vous êtes dans la différence. Vous, on l'a évoqué dans la première partie, c'est-à-dire que de par le choix de votre vie publique et professionnelle, vous êtes différente du modèle dominant. Et votre mari, voilà, aussi par rapport à son handicap. Et comment, justement, en choisissant cette différence et en connaissant un tout petit peu le monde extérieur, ne pas sombrer justement dans l'indifférence du jugement que tout à chacun peut porter sur cette différence? C'est une interprétation, mais vous allez nous répondre. J'ai noté que peut-être, comme vous êtes tous les deux donc chrétiens, peut-être que cette force, cette foi et c'est aussi cette sensibilité, parce que c'est aussi une forme de sensibilité accrue, vous habite comme Jésus à l'époque, oui.
Le handicap, qu'on soit directement touché comme c'est le cas de Jean-Baptiste ou qu'on soit indirectement comme c'est le mien, ne supporte pas beaucoup, ou presque pas, les demi-mesures. C'est-à-dire que soit vous l'assumez, soit vous le refusez. Entre les deux, il n'y a pas de possibilité. Notre but à tous les deux, c'était d'être heureux. Et donc, moi j'ai appris le handicap en vivant avec Jean-Baptiste, en le rencontrant d'abord. Et j'ai constaté la vitalité qu'il y avait chez lui, qui parfois est plus grande que la mienne d'ailleurs. Et la nécessité d'avoir des appuis, des repères vraiment profonds pour pouvoir supporter les aléas, les hauts, les bas, qui vont immanquablement faire la trame de notre existence, parce que son handicap fait que, en un instant, une situation banale peut devenir cauchemardesque. C'est vrai que l'anecdote de l'avion est typique. Il venait de donner une conférence, il était content, très content. Ça s'était vraiment bien passé, il était heureux. Il n'avait qu'une seule chose à faire. En plus, il aime prendre l'avion, donc c'était parfait. Il allait juste descendre de l'avion, prendre sa voiture, rentrer à la maison, retrouver sa famille. C'était simple, a priori. Sauf qu'il y a le handicap en plein milieu, et une personne qui considère qu'un homme handicapé ne peut pas descendre tout seul d'un avion comme tout le monde, et certainement pas prendre sa voiture pour rentrer chez lui. Et être obligé de se justifier tout le temps. Parfois de se faire accoster par des gens qu'il ne connaît pas. Ça lui arrive dans la rue, ça lui est arrivé encore tout récemment. C'était un soir à la tombée de la nuit, vers le mois de novembre, où la nuit tombe assez vite. Il sort les clés de sa poche pour aller prendre sa voiture qui est égarée. Et quelqu'un l'arrête net en lui disant ben dis donc, j'espère que tu vas pas conduire dans cet état. C'est vrai qu'il titube, ça ne signifie pas qu'il est ivre. Et même s'il titube, ça ne signifie pas qu'il va tomber. Et par-dessus le marché, il conduit très bien, c'est un bon pilote. Enfin, ça paraît simple de sortir les clés de sa poche et d'aller prendre sa voiture. Ben, pour Jean-Baptiste, pas toujours. Et ce sont ces hauts et ces bas qui sont complètement inattendus, qui lui tombent dessus. Et il y en a de pire, je peux vous assurer qu'il y en a de pire. Ça fait que le fait que nous soyons chrétiens, ça nous permet une assise vraiment stable. C'est notre référence, quoi. Ce qui, pour nous, justifie tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons, tout ce que nous voulons vivre. Et pourtant, on est juste un homme et une femme comme les autres, donc avec des défauts, des qualités, on se trompe, on fait des erreurs l'un comme l'autre. Enfin, mais c'est notre ancrage. Je crois que d'une certaine manière, sans sa foi, Jean-Baptiste serait mort depuis longtemps. Et à titre personnel, moi aussi.
Souffrance et foi en Jésus. Moi, je vois un lien évident, mais vous ? On reproche souvent aux chrétiens d'être un peu doloristes.
Je n'ai pas beaucoup d'amitié pour le dolorisme, loin de là. Parce que pour moi, la croix, c'est un passage vers la résurrection. La résurrection n'a pas de sens s'il n'y a pas la croix. Mais la croix sans la résurrection, il n'y a plus la foi chrétienne. Je ne peux donc absolument pas les séparer l'une de l'autre. Et le handicap de Jean-Baptiste est en quelque sorte peut, s'il le veut bien, être un condensé de cette expérience de vie chrétienne. En ce sens que son handicap peut être considéré comme un passage par la croix, mais ce qu'il arrive à en faire, la manière dont il arrive à le vivre, c'est juste plus de vie. On pourrait pratiquement dire une forme de résurrection. Même si Jean-Baptiste attend avec impatience la résurrection des corps, parce qu'il voudrait bien savoir à quoi ça ressemblera.
Vous avez véritablement découvert le handicap depuis que vous vivez avec Jean-Baptiste. Et quelles ont été les prises de conscience, peut-être au niveau individuel, voire sociétal, entre guillemets. Et vous dites que le handicap, à ce sujet, révèle tout ce qui va mal dans une société ou un simple petit groupe. C'est une impitoyable école de vérité.
C'est assez troublant de constater que lorsque Jean-Baptiste paraît dans un cercle de personnes, sa présence, il a un charisme très fort, une très forte personnalité. Et cette personnalité qui se remarque, combinée à la visibilité très particulière de son handicap, fait que ça provoque toujours quelque chose. Certaines personnes réagissent très bien, naturellement, en posant des questions, en acceptant de se tromper, comme nous-mêmes nous acceptons de nous tromper. Et puis parfois, ça touche quelque chose chez une personne qu'elle n'a pas envie de voir en elle-même, et ça provoque des réactions parfois démesurées, y compris dans l'entourage le plus proche. Ça peut être très blessant pour tout le monde, y compris pour la personne qui va réagir vis-à-vis du handicap de Jean-Baptiste en se disant que vraiment elle ne s'entend pas avec ce type-là. Simplement, avec l'expérience, je sais pertinemment que lorsqu'il y a un problème qui n'est pas simplement de l'ordre du désaccord, même du conflit, qui est tout à fait naturel entre des hommes et des femmes, c'est normal. Lorsque vraiment c'est un désaccord profond, quelque chose qui va loin, ça touche toujours au fait que la personne valide a beaucoup de mal à accepter ce que lui renvoie le handicap. Et souvent, ça touche à des blessures personnelles, hein, tout simplement. Et certaines personnes ont vraiment beaucoup de difficultés à le vivre. Et en société, ça se remarque tout de suite. Comme si le handicap révélait ce qu'on n'a pas envie de voir. Comme si cette fragilité révélait notre propre fragilité.
Alors, pour conclure sur ce livre, je voulais dire ce que j'en ai pensé, enfin comment je l'ai vécu plutôt. Dès le départ, on s'attend forcément à être bousculé, on hésite à l'ouvrir. On sait qu'on va en prendre pour son grade, c'est vrai. Mais ce qui ressort surtout, c'est la force de votre amour. Je trouve que ça donne du courage et de la détermination pour d'autres couples qui ne correspondent pas forcément aux critères de la société, mais aussi pour des gens qui pensent n'être pas faits pour l'amour ou ne pas y avoir droit, tout simplement.
Oui.
Voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti à la lecture du livre.
Ça me réjouit beaucoup, parce que je savais pertinemment en écrivant ce livre que je risquais de heurter un peu les gens qui me liraient, mais j'espère toujours que toute personne qui le lit a conscience que Jean-Baptiste ou moi sommes juste un homme et une femme normaux, ordinaires quoi, comme tout le monde, avec des qualités et des défauts, et que le handicap est un... Avec toutes les difficultés, les incompréhensions, les questions ou les inquiétudes qu'il suscite, est surtout un lieu qui, si on le veut bien, permet une rencontre plus profonde et plus juste, plus vraie. Et ça passe par le pardon mutuel, entre autres. Et j'espère que la lecture de ce livre peut permettre aux gens d'avoir envie d'entrer davantage dans la réalité de la rencontre, que ce soit avec une personne valide ou handicapée, avec un handicap visible ou invisible.
Alors, merci Séverine Arnild-Yvon. Je rappelle donc les deux livres, c'est Madame fait de la résistance et Un hurluberlu déguingandé et une demi-portion. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Beaucoup.